À la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, vous le savez, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Heck. Bonjour Christian Heck.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Christian Heck, vous êtes comédien, sociétaire de la Comédie Française, metteur en scène. Ce qui est tout à fait insuffisant pour vous présenter.
C'est tout à fait suffisant.
Non, je trouve que ça ne parle pas d'une de vos qualités, votre élasticité.
Ah ben, on va dire, on m'a déjà surnommé l'homme en caoutchouc.
L'homme en caoutchouc. Mmh. J'ai lu le marsupilami aussi.
Oui, ça j'ai déjà entendu aussi.
C'est plutôt sympa.
Ah ben oui, ça ne me dérange pas.
Ils sont mignons les marsupilamis.
Oui.
Ils rebondissent. Vous êtes un être bondissant.
Oui, j'aime bien quand ça rebondit.
Alors certains aussi vous comparent à Charlie Chaplin.
Alors ça, c'est trop d'honneur. Ça, c'est vraiment... Je m'estime pas à ce niveau-là, quand même. C'est juste que... J'aurais bien voulu quand même exister à l'époque du cinéma muet. Ça m'aurait bien plu.
Ouais.
D'être un acteur de cinéma muet. C'est comme si je m'étais un petit peu trompé d'époque.
Alors, je ne crois pas que vous êtes trompé d'époque, Christian, parce que vous avez triomphé dans Le fil à la patte, dans 20 000 lieues sous les mers. Vous ne comptez plus les récompenses. Vous avez reçu en tout 3 Molières, c'est ça? Je ne me trompe pas?
Oui, j'en ai reçu 2 personnels et le troisième, c'est Molière du visuel, qui est plutôt destiné aux plasticiens qui ont travaillé sur 20 000 lieues sous les mers, aux scénographes, aux créateurs lumière. Donc, voilà.
Oui, mais quand même...
Oui, je faisais partie de l'équipe.
Voilà, c'est ça. Alors Christian Heck, vous avez choisi comme journée particulière le vendredi 6 septembre 1996. Ce jour-là, vous faisiez votre entrée dans la grande famille du cirque. Vous découvriez le monde Tzigane.
Expliquez-nous déjà cette espèce d'arrivée dans ce lieu, cette déchirure dans Paris.
Quand on est dans cet endroit derrière la place Clichy, dans cette petite impasse, ce terrain vague, on retrouve en effet ce que vient de dire Alexandre Bouglione. On a l'impression qu'ils sont arrivés le matin, là. Bon, alors ils ont quand même un chapiteau, parce qu'il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du vent, il faut un peu s'abriter. Et puis bon, ben, on installe quelques petits accessoires, on installe un fil, et puis bon, ben, on va s'en servir. Et puis s'il y a quelques personnes qui veulent passer, ils peuvent être avec nous, et puis on va échanger entre nous quelques émotions, et puis on va se parler après, et puis on va prendre un verre, et puis ça va se prolonger autour d'un feu de bois.
Christian Heck, vous avez la chair de poule, vous m'avez montré.
Oui, j'ai des poils qui se dressent, mon Dieu, pour 2 raisons.
Dites-moi.
Parce que Pied Plus, je l'adore,
ouais.
Et puis parce qu'il parle d'un endroit que j'ai bien connu, qui est cette sorte de terrain vague derrière les cinémas Clichy.
Et c'est là où vous êtes arrivé en septembre 96.
C'est là que j'ai goûté au cirque pour la première fois. Et c'est là que j'ai rencontré les Bouglione côté Tzigane, Alexandre Bouglione et Delia, sa femme. C'est-à-dire que quand j'ai eu la bonne trentaine, j'avais décidé d'arrêter un petit peu ma carrière de comédien parce que j'avais absolument envie de goûter au cirque. Ce qui m'attirait beaucoup dans le cirque, c'est le fait que on rentre dans un espace où on est vu à 360 degrés, contrairement au théâtre, où on est vu que de face. Donc, comme si on devait un petit peu jouer à l'égyptienne, et je voulais absolument sentir ce que c'était que d'être comédien ou clown, puisque c'était la discipline que j'avais choisie, et d'être vu tout autour, d'avoir le regard qui vous enrobe, c'est-à-dire de jouer avec tout son corps, avec son dos également. Et donc, c'était une expérience. C'est un jour que je n'oublierai jamais. C'est cette arrivée au cirque Romanes Bouglione.
Dans ce terrain vague.
Dans ce terrain vague. On était 2, donc j'avais une partenaire qui s'appelait Karina Bonan. Donc on était un couple de clowns. Et on a passé l'audition dans le cirque, tout seul face à Alexandre. Et il a accepté de prendre notre numéro et après, il nous a invités dans sa caravane, oui. qui était évidemment sur le terrain vague, donc il faut s'imaginer, hein, il y a un peu de boue, il y a des câbles électriques
qui
passent.
Il y a des animaux?
Il y a des animaux, hein, oui, il y avait une chèvre dans le... Oui. Il y avait les Mercedes, hein, qui est très important pour les gitans, hein, parce que c'est le moyen le plus sûr pour se déplacer. Et donc, ce câble de téléphone qui courait dans la boue du terrain vague, rentrait dans la caravane du patron qui était Alexandre Bouglione. Elle descendait du plafond de la caravane et le téléphone trônait sur la table centrale de la caravane. Et on était en train de discuter avec Alexandre. Et j'ai eu la chance d'assister à la manière de faire, comment Alexandre réservait les places... Comment il
prenait les appels des réservations?
Comment il prenait les appels des réservations? Voilà. Alors, le téléphone sonne. Alors, il décroche. Alors, on entend la petite voix dans l'écouteur. Oui, bonjour monsieur, je voudrais réserver 4 places pour ce soir. Alors, il dit, oui madame. Et alors, il demandait à la dame qui est à l'autre bout du fil, alors, je les réserve à quel nom? Et la dame disait son nom. Et Alexandre disait, vous pouvez m'appeler s'il vous plaît? Et la dame appelait. Pendant ce temps-là, Alexandre, il regardait un peu en l'air sans rien noter. Il faisait une petite pause pour donner l'illusion qu'il était en train de noter sur une feuille de papier les réservations. Et après quelques secondes, il disait « Eh bien voilà, c'est noté, merci madame, et à ce soir. » Et puis raccrocher.
Et mais alors, est-ce que ça posait pas des problèmes?
Alors, le problème, c'est que, évidemment, on peut se douter que certains soirs, il y avait beaucoup trop de personnes, puisque comme il n'avait pas fait de liste, ça pouvait arriver qu'il y avait un surnombre certains soirs. Alors, il avait un numéro tout préparé. Comme c'était Delia, souvent, qui était à la caisse à l'entrée, quand elle était débordée par le nombre de spectateurs, eh bien, ils avaient un numéro, c'est-à-dire qu'ils venaient, ils faisaient semblant d'engueuler sa femme parce qu'elle avait perdu, soi-disant, la liste de réservation. Et alors, ils faisaient un discours au public qui avait du mal à rentrer. « Écoutez, excusez-moi, on a un petit accident. Ma femme a perdu la liste de réservation. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de se débrouiller. Hein. Alors, vous serez peut-être un peu serré, mais je crois que l'important, c'est que tout le monde rentre. »
Et ça marchait.
Et ça marchait. Et donc comme ça, ça pouvait faire rentrer plus de nombre que de personnes que le nombre de places. Et voilà. Et les gens ne se sentaient pas lésés. Et voilà.
Et personne ne râlait.
Non.
Christian Eck, 1996. Peut-être vous vous en souvenez. C'était l'année des Fugees et de cette reprise.
Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he has style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. I felt he
Christian Eck, vous dansez ?
J'adore ça.
Ah, c'est pour ça que je vous ai vu là. Dès que vous avez entendu les Fugees, vous vous mettiez à danser. Et vous avez dansé là-dessus ?
Oh, sûrement. Oui, sûrement.
Et vous allez danser où ? En boîte ? Ou dès que vous pouvez ? Vous dansez où ?
Non, j'aime bien quand c'est pas prévu.
Donc comme ça, à l'improviste chez les gens ?
Oui, oui, quand on décide de pousser les tables et qu'on décide de danser. Mais je ne suis pas très boîte, non.
Non, vous n'êtes pas boîte, c'est non. Ça. Mais j'ai vu que vous avez tout de suite, vous vous mettez à bouger hein, quand vous écoutez de la musique. Alors, le 6 septembre 1996, c'est votre journée particulière, Christian Eck. Je rappelle que vous êtes comédien et sociétaire de la Comédie Française. Ce jour-là, donc, vous jouiez pour la première fois au Cirque Romanès, un duo.
Oui.
Le clown.
C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer.
Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier.
Christian Eck, on la connaît tous par cœur, cette chanson.
Oui.
Vous aussi, hein, j'imagine.
Oui.
Vous regardiez ça à la télé quand vous étiez gamin ?
J'ai toujours adoré Laurel et Hardy.
Et lequel vous préférez des deux ?
Laurel.
C'est le tout maigre ?
Ou ah
c'est
non, gros c'est, non, pardon. C'est,
ah, oui. J'ai un doute.
Laurel et Hardy.
Laurel,
non, Laurel, c'est le gros.
Laurel, c'est le gros ?
Oui, je crois.
Et c'est le gros que vous préférez ?
Ouais, ouais. C'est celui que je préfère parce qu'en fait, quand j'avais formé ce duo de clowns, en fait, ma partenaire, qui est une Auguste, qui est une clown rouge, enfin, celui qui a le nez rouge, cherchait un clown blanc.
Ouais.
Et on a tous ce souvenir, moi, quand je regardais les clowns, le blanc m'a toujours ennuyé.
Ouais.
C'est que le gars qui est pas sympa, c'est ouais. Celui qui sait tout. Et donc elle cherchait un blanc. J'ai dit et comme on avait décidé de travailler ensemble, j'ai dit moi j'ai bien envie de faire ton blanc, mais j'ai pas envie que ce soit un blanc trop sérieux.
Vous voulez faire un blanc sympathique.
Exactement. Je voulais faire un blanc qui était quand même rigolo, parce que dans la lignée des clowns, ça fonctionne toujours de la même façon. Quand il y a deux clowns, il y a toujours celui qui sait et celui qui ne sait pas.
Ouais.
Celui qui a le savoir et celui qui est idiot. Et même quand ils sont trois, il y a celui qui sait, puis celui qui sait un peu moins, puis celui qui sait rien. Souvent, et plus il y en a, plus le dernier, il est con.
Ouais.
Même parfois, il ne dit rien, il bégaye ou il ne sait rien dire. Enfin bon, bref. Il y a cette hiérarchie chez les clowns qu'on retrouve tout le temps. Et alors, moi, je voulais... Ce que je trouve génial chez Laurel et Hardy, c'est qu'ils ont innové, parce que c'est un duo de clowns, mais celui qui sait est aussi con que celui qui ne sait pas. C'est-à-dire qu'il croit savoir.
Et c'est ça que vous faisiez, vous aussi ?
Oui, voilà.
Vous étiez celui qui croyait savoir ?
Oui, ça va. Il se trompe autant, mais pour lui, c'est lui qui a le savoir.
La hiérarchie est très importante dans les histoires de clowns.
Oui.
Le rire est déclenché par l'écart dans
oui.
la hiérarchie,
oui,
c'est
oui.
ça ?
Oui,
c'est
oui.
ça qui génère le
oui.
rire.
Oui, oui.
Et vous avez étudié ça, vous ? Vous avez étudié le clown ?
J'ai pas étudié de manière scientifique le clown, mais je m'y suis beaucoup intéressé.
Et vous êtes aussi beaucoup intéressé au mime, je crois.
Ah oui, d'ailleurs avant de faire du théâtre, je voulais faire du mime ou de la danse. En tout cas, la parole ne m'intéressait pas.
Et vous vouliez faire Étienne de Crous.
D'innombrables comédiens, de danseurs sont venus chercher chez vous des secrets. Quels secrets, selon vous ?
Et le mot de secret est bien choquant, étant donné que je n'aime pas le mystère. Hein. Je suis cartésien, j'ai l'esprit géométrique, et je pense qu'il faut apprendre la science de l'art avant le cri du cœur. Le talent ne m'intéresse pas, le génie ne m'intéresse pas. Parce que le talent, le génie, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas le professeur. Mais je peux enseigner l'art, la science de l'art. Une certaine façon de parler, une certaine grammaire, voilà.
Quelle est votre technique ?
Eh bien, c'est de considérer le corps comme un clavier. Je veux dire par là, de considérer le corps dans son squelette, de voir combien il a d'os, et de considérer tous les os comme des touches de clavier. Et le corps, qui pourrait être ainsi figuré par un maître pliant, peut faire toutes sortes de combinaisons.
Alors c'était la voix d'Étienne de Croux, oui. Christian Eck, vous l'avez reconnu.
Mais oui, moi je rêvais de prendre des cours avec Étienne de Croux.
Vous n'en avez jamais pris ?
Non.
Qui était-il alors ? Qui était ce monsieur ?
Ce monsieur, ce qui me fascine chez lui, c'est effectivement, il considère le corps comme un instrument de musique. Grâce à sa technique, il apprend à ses étudiants à isoler chaque partie de son corps, à pouvoir se servir uniquement de ses mains sans que ça influence le bras ou le bras sans que ça influence l'épaule. En tout cas, il parvient à faire de très très beaux dessins, à nous faire prendre conscience de sa tenue corporelle, ce qui est un outil extraordinaire, notamment pour composer un personnage.
Alors vous n'avez jamais suivi ces cours, mais vous êtes capable de ça. Il parle du corps comme d'un maître pliant, Christian
oui.
Eck,
oui, oui.
Et ça vous correspond, je trouve. On a l'impression que vous êtes, vous, Christian Eck, capable, effectivement, de bouger votre main sans que rien d'autre ne bouge ou de bouger votre bouche.
Oui,
sans...
le breakdance, c'est ça aussi. Hein. Ça s'appelle l'isolation.
L'isolation. Alors là, vous parlez du breakdance pour une raison bien particulière, c'est que quand vous avez passé le conservatoire de Bruxelles...
Ah oui, l'INSAS, oui.
L'INSAS à Bruxelles. Oui. L'INSAS à Bruxelles. Vous avez joué Mademoiselle Julie, je crois,
oui,
c'est ça.
Oui, j'ai présenté Monsieur Jean dans Mademoiselle Julie, mais le souci, c'est que, bien sûr, je connaissais mon texte, mais je jouais tout en saccade, en breakdance, en fait.
Ouais, et là, vous venez de vous déboîter l'épaule.
Alors, ça a bien fait rigoler les professeurs qui m'ont engagé, qui m'ont accepté dans l'école. Et après, ils ont passé leur temps à nettoyer tout ce que j'avais appris en mime. Et ils avaient raison, parce que ce qui m'intéresse maintenant dans le mime, c'est de l'utiliser par dose homéopathique.
Ouais,
on l'utilise à 100%, c'est trop sec comme art. C'est juste pour moi un outil.
Maintenant, c'est un outil.
Oui.
Mais quand même, ce qui vous intéresse, Christian Eck, c'est le mouvement.
Oui.
Vous êtes dans le mouvement tout le temps. Et là, je vois, c'est difficile pour vous de rester assis sur cette chaise.
Oui.
Hein, c'est
oui,
compliqué.
Oui, oui.
Vous avez besoin de bouger tout le temps, de vous tourner, d'être sûr. Vous ne pouvez pas rester immobile, en fait.
Non.
Et vous avez aussi un talent pour imiter les gens. Les démarches, les gens dans le mouvement.
Alors attention, il y a imiter, il y a des gens qui imitent magnifiquement les voix des gens. Moi, je suis pas fort à ce jeu-là. Je sais, Denis Podalydès, par exemple, la comédie française, il a un talent dingue pour imiter des personnages vocalement. Moi, je sais plutôt imiter leur manière de bouger. C'est-à-dire que j'adore m'asseoir à une terrasse de café et regarder les centaines de démarches différentes qui passent devant moi. Quand on regarde quelqu'un marcher, on peut déjà se raconter une dizaine d'histoires sur sa vie. On voit ses frustrations, on voit ses points forts, ses points faibles, on voit ce qui est bloqué, on voit ce qui est vivant.
Vous voyez tout ça ?
On voit beaucoup de choses dans juste à regarder quelqu'un.
Dans le corps de l'autre.
Oui.
Donc vous êtes aussi très attentif à ça.
Oui.
Et vous pouvez les imiter, vous les regardez quelques secondes et vous pouvez imiter une démarche.
C'est facile pour moi, oui.
Et la parole dans tout ça, Christian Eck ?
La parole, elle est venue plus tard. je crois que je fais le sens un peu inverse. notamment quand je répète, c'est pareil. J'ai besoin de trouver la bonne posture du personnage, de décider, de faire son dessin. Je fais son dessin mental. J'imagine sa silhouette, j'imagine la manière, comment il bouge, comment il marche, comment il se met, il s'assoit, comment il se relève, comment il prend un objet. Et une fois que j'ai la posture qui est juste, la parole seulement peut arriver. Sinon, la parole sortira fausse.
Alors moi, je suis très étonnée parce qu'il y a un homme que vous aimez beaucoup et qui est un homme de mots, un homme de paroles et de jeux de mots. Ça m'amuse de penser que vous ayez tant besoin, enfin, que vous passiez tout le temps par le corps et que vous aimiez tant cet homme-là.
Ah, c'est cet air-là. Vous pouvez pas savoir ce que ça évoque pour moi. Cet air, vous entendez, là?
Non, mais j'entends rien.
Ouais, vous pouvez pas comprendre, c'est parce que cet air-là, moi, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Ça me... Quand j'entends ça, ça me... Un jour, vous savez, j'étais chez moi. Ça jouait, ça. Elle était à côté de moi, comme ça, c'était une femme... Une magnifique belle, vous savez, elle avait... Je lui ai pris la main, comme ça. Et puis je la caressais, comme ça, au-dessus, n'est-ce pas? Au-dessus, je... comme ça. J'avais dit, est-ce que vous m'aimez? Et elle m'avait dit non.
Christian Eck.
Raymond DeVos, c'est Raymond DeVos.
C'est Raymond DeVos, ouais. Vous l'avez reconnu dans Pierrot le Fou, de ouais. Jean-Luc Godard. Ouais. Et alors, vous avez une passion pour lui.
Ah oui, alors c'est bizarre parce que c'est un homme de mots,
bah oui.
apparemment. Mais quand on connaît son histoire et quand on connaît un peu ses sketchs, il parle beaucoup de mime. Il a quand même suivi pas mal de cours de mime.
Ah oui, je savais
Raymond
pas.
DeVos, oui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais il est passionné de mime. Et puis il disait dans ses interviews, ben oui, mais j'étais un petit peu trop gros pour en faire un métier, donc j'étais plutôt vers le mot.
Ah mais vous intéressez, vous êtes en train de me dire, Christian Eck, que vous vous intéressez au corps de Raymond DeVos quand vous l'entendez parler.
Ah oui, enfin les deux. Parfois il fait des choses assez statiques, c'est vrai, mais par exemple il a un sketch qui s'appelle « La descente du Lemme ». Et il descend du piano avec ses bretelles, au ralenti, et il fait le lemme qui atterrit sur la lune, avec ce corps-là.
Le lemme.
Le lemme, c'est la partie qui se décroche d'Apollo, c'est le petit vaisseau spatial qui se décroche de la fusée pour aller atterrir sur la lune.
Et ça, Raymond DeVos fait ça.
Il le faisait en tirant ses bretelles, et il le faisait au ralenti. Voilà. Et alors, en plus, moi, je tannais mes parents pour aller voir Raymond DeVos un maximum. Moi, je l'ai vu 6-7 fois sur scène. Ce qui me plaît chez Raymond DeVos, c'est que c'est pas uniquement des jeux de mots, c'est il s'investit dans ses textes d'une manière que ça me touche énormément. Il est vraiment à fond. Par exemple, il explique... Quelqu'un qui veut acheter une bicyclette, vous voulez acheter cette bicyclette-ci avec la sonnette qui fait là, ou vous voulez cette bicyclette-là avec la sonnette qui fait ci. Et il rentre, même ce sont que des bêtes jeux de mots, mais il rentre tellement dans la problématique du gars qui hésite entre les deux bicyclettes, qu'il va se mettre à pleurer. J'adore Raymond DeVos. J'adore cette apoplexie, on a l'impression qu'il va exploser quand il est pris dans ses mots.
De cette tension et de cette fragilité ouais. En même temps.
Oui.
C'est ça?
Oui, le fait qu'il transpire, j'adore ça.
Et alors, c'est pour ça que quand vous avez reçu votre Molière en 2000, quand vous avez reçu le Molière de la révélation masculine de l'année, quand on vous a remis votre trophée, vous avez fait une déclaration qui m'a beaucoup plu,
oui,
Christian Eck.
J'ai fait une déclaration d'amour à Raymond DeVos.
Et qu'est-ce que vous avez dit?
Parce qu'il
vous
était en face, il était en face de moi.
Ouais.
Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit.
Et ben, vous avez dit que vous auriez autant aimé recevoir un DeVos qu'un Molière.
Ah oui, c'est ça. Mais oui.
Ça fait sourire pour un homme qui est sociétaire de la Comédie Française aujourd'hui.
Pourquoi?
Bah parce que là vous êtes dans Molière à fond les ballons.
Ah oui, mais non, je voulais recevoir un prix de vivant.
Ah oui.
Non, c'était ma manière de lui dire que je l'aimais, puisqu'il était en face de moi à Soirée des Molières. C'est ça qui m'a donné l'idée de... Je voulais absolument lui parler. J'étais fan. J'avais mon idole en face de moi. Fallait bien que je trouve un moyen de communiquer avec lui. Et donc, j'ai inventé cette phrase-là.
Ouais.
Et ça n'a pas manqué, parce qu'après les Molières, j'ai été manger à côté de lui au Fouquet.
Et alors, c'était bien?
Ah ben oui, j'ai mangé à côté de Raymond Devos.
Et vous a dit qu'il vous aimait aussi?
Oh oui, en tout cas il était très sympa, il me connaissait pas, mais en tout cas il était très gentil avec moi.
Alors ça, ça aurait pu être une journée particulière, une soirée particulière, votre dîner avec Raymond Devos.
Oui, oui, c'est
vrai.
Parce
que ça, c'est une belle nuit que vous avez passée.
Oui.
Dites-moi, quand vous rentrez à la Comédie Française, quand on vous propose, Christian Eck, de rentrer à la Comédie Française, vous avez la frousse parce que vous allez vous colter du texte et du texte et du texte classique.
Oui, oui. Je suis pas un littéraire, je lis pas beaucoup, je suis un mauvais exemple, vous savez.
Oui, j'en suis sûr.
Je lis pas beaucoup, j'ai fait des études plutôt scientifiques, j'ai plutôt fait des spectacles où je bougeais beaucoup plus que parler.
Et alors comment vous réagissez?
Et alors on m'engage à la Comédie Française, enfin on me propose d'entrer à la Comédie Française, c'était Muriel Mayette qui était administrateur à l'époque. Moi je n'avais pas gardé un excellent souvenir de la Comédie Française. Ma mère m'y avait emmené quand j'étais tout jeune. Comme on habitait en Belgique, on prenait le train, on venait passer le week-end à Paris. Évidemment, on chargeait le programme, hein. On allait voir des musées. Et puis le soir, on faisait un soir théâtre public, un soir théâtre privé. Et elle m'avait un jour emmené à la Comédie Française. On avait fait trop de musées la journée. et je me suis, je sais pas, je devais avoir 11 ans, quelque chose. Mais je me suis endormi. J'avais trop marché dans Paris la journée. Bon, bref. On me propose de rentrer à la Comédie Française. Et évidemment, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas. Au moins, on essaye.
Ouais.
Pourquoi ils ont besoin d'un vieux mime dans la maison de Molière, dans la maison de la parole? Je n'ai pas compris cet engagement, mais je me suis dit, on ne refuse pas, on essaye. Et après, on en reparle.
Et alors?
Je me suis plu énormément dans cette maison.
Parce que vous avez trouvé des
amoureux.
Copains?
Je suis tombé amoureux de la troupe. De la troupe en premier.
Et des copains avec qui vous pouviez vous en donner à cœur joie. Parce que c'est ce qu'on voit sur scène aujourd'hui.
Oui.
On voit comment vous vous en donnez ensemble à cœur joie. Et puis là, vous avez des gens qui vous donnent la réplique à la hauteur de ce que vous leur proposez.
Oui. Et puis, ça fait pas mal d'années que la troupe est de plus en plus hétérogène dans le bon sens du mot, c'est-à-dire que ce n'est plus comme avant où c'était les gens qui sortaient du Conservatoire de Paris et puis c'est tout. Non, maintenant il y a de tout et c'est très intéressant tous les échanges qu'on se fait. Et puis d'ailleurs, quand Éric Ruff est arrivé comme administrateur, c'était un de ses premiers discours, c'était on s'échange nos savoir-faire. Si on a des spécialités, échangeons-les. On se les transmet les uns les autres.
En tout cas, ce qu'on voit quand on regarde un spectacle où vous jouez, c'est que vous vous en donnez à cœur joie.
Non, je ris en pensant à cette chanson. Moi, je pique des épingles. Vous vous demandez sans doute ce que c'est que cette chanson. Moi, je pique des épingles.
Moi, pas du tout, monsieur.
Oh, il n'y aurait pas de discrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier.
Ah, oui.
Oh, alors. Oui, alors. Juste le refrain pour vous donner un aperçu. Moi, je pique de ces pains que dans les plots des femmes que j'y singue. Moi, je pique de ces pains que dans les plots des femmes que j'y singue. Moi, je pique de ces pains que. Oui, l'air n'est pas encore fait. Hein. Chacun sa façon de se divertir. Quand je pique pas des pâtes, moi, c'est pas le plaisir.
Oui.
N'est-ce pas? Mon Dieu, je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles. Hein. Et encore les jeunes filles. il faut bien se dire ceci. À celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. À celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout.
C'est évident.
C'est évident.
Mon Christian Eck, c'était un extrait, évidemment, du Fil à la pâte, hein, mise en scène par Jérôme Deschamps. Là, vous avez reçu un Molière pour votre interprétation de Bouzin, un clerc de notaire étriqué, plein de tics. On l'entend, la salle est morte de rire. Moi, je vous ai vu, je pleurais de rire aussi. Et puis là, quand vous êtes encore assis en studio, vous le refaites, quoi. Le personnage, il est avec vous.
Oui, j'ai la musique du corps bien enregistrée.
Et elle est comment, cette musique du corps, alors? Ça serait quoi pour Bouzin, pour ce personnage? Quel mot vous mettriez sur cette musique du corps?
Alors, Donc Camille Bouzin, quand même, est quelqu'un qui, mentalement, est très atteint, hein, parce que il a un orgueil énorme, il écrit des chansons absolument minables, et il pense que ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Alors quand on lit ce qu'il a à dire, on se dit, bon sang, ce bonhomme, il est très atteint, nerveusement. Il est seul chez lui, sa vie amoureuse est un mystère. Pour moi, c'est quelqu'un de très névrosé et de très imprévisible. Donc, sa manière de bouger, moi, me fait penser à, vous savez, un œuf sur le plat, sur la poêle, quand on met la cuisinière à fond et que ça commence à faire des petites ébullitions tout le long du blanc qui est en train de cuire.
C'est ça. C'est ça, Bouzin, pour vous.
Oui.
C'est le blanc de l'œuf au plat.
Oui. C'est ça, exactement. D'ailleurs, quand on tout ce qu'on crée, tous les artistes qui créent des choses s'inspirent de la vie, de ce qui nous entoure.
Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Je me donne un mal de chien, mais je ne comprends pas tout. Je me donne un mal de chien, je n'en viens pas à bout. À cause des musiciens, yeah, yeah, qui jouent près de moi, je ne peux pas lire ici. Je ne le répéterai pas, je ne peux pas lire ici. C'est bête ça, je ne peux pas lire ici. Ça y est, et c'est reparti. Et dis donc, tu peux pas jouer moins fort. Faut que je me cultive. Et dis donc, Nino, Kafka, c'est pas Astérix. Moins fort, Nino, j'ai les nerfs qui lâchent. Grâce à ces musiciens, j'entrevois tout à coup l'univers kafkaïen qui rend les hommes fous. L'univers kafkaïen, oh yeah, moi je l'ai chez moi, c'est bien le dernier mois que je passerai là. Je ne veux plus vivre ici, je ne resterai pas, car si je reste ici, oh yes, ça oui je le vois, car si je reste ici, je ne me cultiverai pas, je ne peux pas lire ici, car c'est très calé Kafka.
Bon, Suzanne Gabriello, c'est tout à fait... vous n'avez pas lu Kafka, c'est tout à fait pour vous, Christian Heck.
Mais oui.
Pour plusieurs raisons.
Oui.
La première.
La première, c'est parce que Kafka, je l'ai joué, et du coup, j'ai dû le lire.
Et vous avez joué les Métamorphoses.
Oui, les Métamorphoses.
Et vous avez joué le rôle
De Grégoire Samsa, qui est le jeune homme qui se retrouve en insecte un beau matin.
Voilà, et comment vous avez travaillé ce rôle?
C'était Steven Berkoff, le metteur en scène, et donc j'ai dû travailler l'insecte. Donc j'ai observé les insectes pour voir comment ils bougeaient.
Mais lesquels?
Je regardais surtout, puisque là il s'agit plutôt d'un cafard, je regardais plutôt des choses qui rampent. Le vol n'était pas de mise pour cet insecte-là,
ouais.
Donc j'ai regardé leur mouvement de pattes quand ils marchent.
Mais alors vous avez regardé des vrais cafards, enfin.
Des vrais cafards ou alors tous les insectes rampants, pas les mille pattes parce que là il y en a beaucoup trop, mais tout ce qui a au moins six pattes, c'est parfait.
Six pattes. Et là vous avez
même
décomposé.
Même la mouche quand elle vole pas, sa marche est intéressante.
Alors là comment vous faites après?
Je regarde comment ils synchronisent leur mouvement de pattes.
Et vous essayez de faire pareil.
Dans quel ordre il la bouge.
Ouais.
Le dynamorythme, c'est toujours très important. C'est la rythmique propre de l'objet ou de l'animal ou de la personne.
Ouais.
Et ça fait toujours une musique. Et oui, et c'était l'ordre de synchronisation des pattes. Et alors, aussi, donc j'ai dû jouer un insecte, j'ai dû jouer le cafard, c'est aussi, ce qui est important, corporellement, c'est de supprimer le poids.
Ah.
C'est-à-dire donner l'illusion qu'on est super léger. Parce que quand on voit ces insectes, on a l'impression, quand ils marchent, moi la première impression que j'ai, c'est qu'ils ne pèsent rien. Et ils ne pèsent tellement rien que quand la surface, aussi plane soit-elle, si la surface est verticale, mais l'insecte il continue à marcher parce qu'il a des micro-crochets, ce qui est le cas de la mouche, qui peut marcher sur une vitre. Et donc ça c'est très intéressant corporellement, à comment donner l'illusion qu'on n'a plus de poids.
Alors là, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de vous voir marcher sur les murs. Moi, là, je rêverais que vous grimpiez sur les murs du studio pour voir comment vous avez travaillé.
C'est à l'étude, figurez-vous.
Alors, je vous réinviterai pour vous regarder avec grand plaisir. Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière du comédien et sociétaire de la Comédie Française, Christian Eck. C'était donc le 6 septembre 1996. Vous jouiez pour la première fois votre numéro de clown Cirque Romanès. Ça n'a pas un grand rapport, mais vous allez tout de suite me comprendre. En 1996, Christian Eck, la troisième saison du feuilleton X-Files faisait un tabac en France et le disque des meilleures musiques de la série entrait au box-office. Vous vous rappelez de la musique?
Mais oui.
Vous la connaissez par cœur?
Mais oui.
Vous regardiez, évidemment.
Mais
il y avait Laurel et Hardy, et puis il y avait X-Files.
Et puis il y avait de la science-fiction.
Et puis vous adorez ça.
Oui.
Vous aimez la science-fiction, les extraterrestres, l'astrophysique.
Oui.
Vous auriez aimé être physicien?
Oui. Moi, je voulais faire ça. J'ai commencé des études de physique, d'ailleurs. Je voulais m'occuper des énergies douces, les énergies renouvelables.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
J'aimais beaucoup la matière, mais je me sentais pas à ma place. Je sentais que mes collègues étudiants, aussi sympas soient-ils, je sentais que j'étais pas à ma place. Je sais pas expliquer autrement.
Il vous manquait quoi? La poésie? La poésie du savant, le savant fou?
Exactement, j'étais fasciné par le... Ça, je l'ai compris plus tard. J'adore les personnages de savants. Ils me fascinent.
Lesquels, par exemple?
Hawkins, qui est décédé après il n'y a pas très longtemps. J'adore la simplicité d'Hubert Reeves, qui vulgarise magnifiquement les théories sur l'univers pour faire comprendre au tout public... Einstein, je suis fasciné par ces gens-là. Mais je me suis rendu compte que, avec le temps, que c'est plus facile de jouer un savant que d'être un savant.
Donc vous préférez le jouer?
Oui.
Alors là, vous vous préparez justement à jouer un savant un peu fou. Vous êtes en train de travailler à une adaptation de la mouche.
Oui, alors
pour revenir aux insectes.
Avec mon épouse Valérie Lessort, on fait une adaptation de la mouche que tout le monde connaît par le film
de Cronenberg,
qui lui-même est tiré d'une nouvelle de Georges Langelanne. On fait une adaptation de La Mouche au théâtre, et qu'on va jouer au Bouffe du Nord début janvier. Effectivement, je vais jouer ce savant qui est en train de fabriquer la machine à téléporter, et qui va se téléporter malencontreusement en se mélangeant à une mouche.
Commencement, séquence téléportation, séquence activée.
Écoute ça, j'ai besoin d'une opinion objective. Alors?
Eh bien, ce n'est pas d'une grande finesse, mais ça a le goût du steak.
Bien. Maintenant, goûte ça, c'est la moitié de téléporté.
Oh, tu es sérieux? Un singe a été écrabouillé là.
Un babouin. Mange. Oh. Quoi?
C'est un drôle de goût.
Précise.
T'as le goût de synthétique. Qu'est-ce qu'on a prouvé?
L'ordinateur
nous donne son interprétation d'un steak. La traduction de son interprétation, il le repense, au lieu de le reproduire tel qu'il est. Donc, quelque chose s'est perdu dans la traduction.
Moi, je suis perdue.
La chair. Ça devrait rendre l'ordinateur fou, comme les vieilles dames avec les bébés. Mais non, pas encore, car je n'ai pas enseigné à l'ordinateur à devenir fou de chair. La poésie du steak. Il va apprendre tout de suite.
Christian Eck, c'était donc un extrait de La Mouche de Cronenberg.
Oui.
Alors il y est question de la poésie du steak, de la poésie de la chair dans votre adaptation. Il en sera question aussi.
Moins. D'ailleurs, on a quand même pas mal transformé la situation de l'histoire parce que nous, on a mélangé notre mouche avec. Avec une émission connue de striptease qui est
de télé belge.
Oui, la Soucoupe et le Perroquet. C'est-à-dire que là, c'est un couple. C'est
dans l'émission de striptease, donc dans ce petit reportage qu'il y a
eu. Dans l'émission de striptease, c'est un vieux garçon qui vit avec sa maman. Et nous, on a transposé l'histoire parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est pas uniquement le fantastique. On ne peut pas faire que du fantastique au théâtre. Il nous faut une matière humaine. Et on avait vraiment envie de parler de ces couples de vieux garçons qui ne parviennent pas à quitter sa maman. Et ces couples, ces vieux couples, mère-fils, ça nous intéresse énormément. Et on a voulu aussi parler de ça. Et c'est ce couple-là qu'on a insufflé dans La Mouche.
Donc de la chair et de la mère.
Exactement.
Voilà comment on résumera votre adaptation de La Mouche. Un petit cadeau pour vous faire plaisir, Christian Eck.
Quand vous avez écrit La Bibliothèque de Babel, est-ce que vous êtes parti d'une idée mathématique précise?
Oui, c'est l'idée du jeu combinatoire. Les mathématiques et la philosophie, la métaphysique, cela m'a toujours intéressé. Je ne dirais pas que je suis un mathématicien ou un philosophe, mais je crois avoir trouvé dans les mathématiques et dans la philosophie des possibilités littéraires, et surtout des possibilités pour la littérature qui me passionne le plus, pour la littérature fantastique. Alors moi je me vois plutôt comme un poète, comme un homme de lettres qui a entrevu les avantages, les possibilités des sciences pour l'imagination.
Christian Eck, vous avez reconnu cette voix?
Oui, c'est Monsieur Borges.
C'est Monsieur Borges, et il se trouve que La Bibliothèque de Babel est un de vos livres favoris, Christian Eck.
Oui.
Vous êtes sensible à la beauté des mathématiques, à la beauté des sciences?
Oui. En fait, j'avais un professeur de philosophie pour compléter un peu ce discours qu'on vient d'entendre. Et mon professeur de philosophie à l'université où on m'enseignait la science physique, il disait que la philosophie est l'antichambre des sciences. C'est-à-dire que c'est pas parce que on parle de mathématiques ou de physique que c'est sec et anguleux. C'est parfois des grands rêveurs. Et il faut rêver pour trouver une nouvelle théorie. Il y a beaucoup d'imagination aussi là-dedans. Par exemple, Jules Verne était un visionnaire qui se basait beaucoup sur les sciences. C'est ce spectacle que j'ai fait avec Valérie Lessort il y a quelques années, et c'est sur le même principe.
Quand vous avez fait une adaptation des 20 000 lieues sous
oui.
les mers, c'était exactement ça. Vous étiez dedans. Dans la science et en même temps dans l'imaginaire et dans la folie, et votre folie.
Exactement.
Avec des marionnettes en plus.
Marionnettes qui avaient été fabriquées par Valérie Lessort et Carole Allemand. Oui, ça c'est encore un autre monde, c'est encore une autre partie de ma vie, la fascination des marionnettes.
Full time, you talk your money up.
nights living in a coal mine. Too tired to call your ma. Hey ma, hey ma. Too old to know you're moping up. Well, you wanted it to hold that. You're back and forth with that. I waited outside. I was talking on door. Past that you know. I wanted all that mine, sugar. I wanted all mine. I had a heavy mind, sugar. I took it, it was right. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Told time to call your mind. Hey, my.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Le 6 septembre 1996, c'est votre journée particulière, Christian Eck, on le sait, hein, maintenant on l'a assez répété. L'année 96, vous viviez encore en Belgique, hein, Christian.
Oui.
Et alors, en octobre 96, à Bruxelles, c'est l'année de la Marche Blanche. 400 000 personnes défilent en hommage aux victimes de Marc Dutroux. Vous y étiez ?
J'y étais, oui. C'est malheureusement... c'est une affaire qui n'a pas fait la gloire du peuple belge, oui, oui.
Mais vous étiez dans cette foule.
Oui, oui, c'était très, très touchant, très, très silencieux. Je n'oublierai pas ce moment.
En France, en 1996, c'est l'année de la mort de François Mitterrand.
On est bercé par la politique française en Belgique. Hein. On la comprend mieux que la nôtre, d'ailleurs, parce qu'elle elle est plus simple.
Oui.
Parce que nous, avec nos trois régions, c'est compliqué. Pour nous, en Belgique, on voyait Mitterrand comme un grand président.
Alors, pour revenir aux sciences, pour vous faire plaisir, en 1996, Claudie André Déhaye devient la première femme française à partir dans l'espace à bord de la station Mir. Et je me disais que ça, ça devait être un de vos rêves les plus fous, Christian Eck, d'aller dans l'espace, non ?
Mais oui. Ah oui. Hein. Quand j'étais petit, je m'auto-endormais en faisant toujours le même rêve, un rêve contrôlé.
Ouais.
Et c'était toujours le même. Je fabriquais une soucoupe volante dans mon garage. Et quand elle était prête, j'ouvrais le plafond du garage et je partais dans l'espace. C'était toujours le même et ça m'endormait.
Ah, c'est génial. Alors en 1996, le monde suivait vos rêves. Le Pentagone annonçait avoir trouvé de la glace sur la Lune. En 96 aussi, la NASA, elle affirmait avoir détecté des traces indiscutables de vie sur un météorite en provenance de Mars. Mais surtout, en 1996, Mars Attacks sortait sur nos écrans.
Ici le président des États-Unis d'Amérique. Je m'adresse à vous dans l'espoir que ce qui s'est passé aujourd'hui dans le désert du Nevada ne faisait que résulter d'un malentendu culturel. Ce qui nous paraît évident, c'est le fait que nos deux peuples ont énormément de connaissances scientifiques à partager. Comme vous devez être aussi enthousiaste que nous de découvrir des êtres intelligents dans le système solaire. Et je tiens à être très clair. Vous n'avez absolument rien à craindre de notre part. Nos coutumes peuvent vous paraître étranges, mais nous n'avons pas d'intentions agressives.
Christian, est-ce que dans vos rêves d'enfant, les extraterrestres avaient la même tête que ceux de Mars Attacks.
Non, 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 non. Dans mon enfance, les extraterrestres étaient bien plus gentils. Ceux-là, ils sont d'une cruauté, d'une bêtise et d'une cruauté vraiment délicieuse.
Oui, c'est ça, vous les adorez, vous dites ça avec un grand sourire. Alors, en 96, Christian Eck, c'est notre moment, c'est un des moments préférés de l'émission pour nous. On dansait sur des musiques inoubliables, on se déchaînait là-dessus. Alors ? Oui ? Vous avez œuvré ? Christian Eck ne parle pas. Il danse.
Ah mais oui. Hein.
Ah oui ?
Sûr que oui.
Ah oui ?
Mais oui.
Bon. Ça nous fait plaisir. En 1996, c'était la fin du service militaire obligatoire. Alors Christian Eck, je me suis vraiment demandé pourquoi vous aviez choisi cet événement-là dans l'année 1996. En quoi ça vous parlait ?
Ça me parle, bon, je n'en suis pas très fier. D'ailleurs, j'ai hésité à en parler au micro de
France Inter,
votre émission.
Ouais.
Oui, eh bien, le service militaire obligatoire était encore de mon époque. Et donc, c'était vraiment la chienlit. Moi, je sortais de l'INSAS, je commençais à travailler de plus en plus, j'étais en pleine ascension
dans votre métier,
dans mon métier, et voilà pas qu'on ne peut plus retarder, parce qu'on le postpose, et puis à un moment donné, doit faire son service militaire. Et je n'avais vraiment pas le choix, mais je me suis fait réformer. Et pour ce faire...
vous riez tout seul.
Oui. J'en suis un peu honteux. Bon, donc, en fait, je me suis choisi des névroses. Enfin, en tout cas, j'ai pris mes névroses et je les ai grossies.
Mais comment ?
Eh ben, j'ai lu un marabout flash, la psychanalyse pour tout le monde, hein, comme la psychanalyse pour les nuls, on dirait maintenant.
Ouais.
Et j'ai coché des névroses qui ressemblaient un petit peu aux miennes.
Alors lesquelles vous avez coché ? Oh, c'est ça qui m'intéresse.
Je me rappelle plus.
Mais vous avez fait un numéro.
Oui, je sais que j'avais un mauvais contrôle sur la fuite du temps, c'est-à-dire que je me souviens, j'avais raconté que je me levais le matin et puis je comprenais pas pourquoi et je me retrouvais le soir.
C'est-à-dire que ce qui est le plus inquiétant, c'est la façon dont vous me regardez en disant ça.
Il y a ce trait d'union où on ne sait pas ce qui est arrivé entre le matin et le soir.
Et vous avez été réformé.
J'ai été réformé, oui. J'ai triché.
Bon, Christian Eck, je suis désolée, c'est déjà la fin de cette émission. Je serais bien restée un peu plus longtemps avec vous. On peut vous voir en ce moment dans le Malade Imaginaire. Essayez de pas oublier une représentation, comme ça a pu vous arriver, n'est-ce pas ?
Oui.
Hein ? Parce que vous êtes un des seuls de la Comédie Française à avoir oublié une représentation un jour.
Je crois que c'est déjà arrivé, je suis pas le seul. Ces derniers temps, je suis le champion. Oui, j'ai oublié une représentation un jour de Lucrèce Borgia à la Comédie Française. Et je n'oublierai jamais ce moment d'effroi. J'étais à 400 km de là et j'avais mal noté dans mon agenda la représentation et on m'a appelé à 20h alors que j'étais à 400 km de Paris pour dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? On t'attend en maquillage. » Ben, j'étais pas là.
Alors ?
Alors, heureusement, le responsable de salle, le semainier, qui est tenu par un sociétaire de la Comédie Française, c'était Loïc Corbery ce soir-là. Et au lieu d'annuler la représentation, qui est une chose catastrophique pour nous, il a décidé de me remplacer texte en main. Et la représentation a eu lieu.
Texte en main, c'est-à-dire qu'il a le texte dans les mains ?
Oui.
Bravo, hein.
Ah ben, j'aime autant vous dire qu'il a eu un excellent whisky quand je suis revenu. Je lui dois une fière chandelle à ce Loïc Corbery.
Bon, merci Christian Eck d'avoir passé cette heure avec nous. Alors, on vous voit donc dans le Malade Imaginaire jusqu'en décembre, dans une tournée dans toute la France.
Oui, surtout la région parisienne. Mais on va faire aussi La Rochelle, Marseille, Antibes.
Et il y aura tout ça sur le site de l'émission et vous serez aussi au Bouffe du Nord, alors là pour La Mouche, dans La Mouche,
oui,
que vous avez adapté avec votre femme, mais ça c'est en 2020.
Et on joue tous les deux, Valérie, Le Sort et moi, on joue dedans.
Ouais.
Mais avant ça, on fait un opéra à l'Opéra Comique, Ercole Amante. 4 novembre, la première.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, Alina Véronique de Saint-Pastou et à la technique aujourd'hui Stéphane Boja. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster et surtout réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier. À dimanche prochain.